Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord, lundi 11h30. En direct, la chronique des libres penseurs de Dordogne, groupe Fred Zeller, présenté par Jean-Louis.
C'est pour la paix, dit-il, que je travaille, loin des canons.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Lundi 7 septembre 2026. Et dans cette chronique du groupe Fred Zeller, je vais commencer, comme je le fais depuis maintenant plusieurs semaines, par un communiqué de presse de la Fédération nationale de la libre pensée en relation avec la venue du pape en France à la fin de ce mois de septembre. Et dans ce communiqué de presse est posée la question « Le Vatican contre le droit de mourir dans la dignité ?» Loi des hommes ou droit canon? On sait déjà que Léon XIV, pape de son État, lors de sa visite en France du 26 au 28 septembre 2026, va dire tout le mal que le Vatican et l'Église catholique en France pensent de la loi du 15 juillet 2026, ouvrant enfin la porte au suicide assisté et à choisir sa fin de vie dans la dignité et sans souffrance. Une grande campagne cléricale a été menée, brandissant les fourches de l'excommunication pour tout catholique qui la soutiendrait. C'est le temps des croisades et de l'Inquisition qui revient. On sait que pour le catholicisme, la terre n'est qu'une vallée de larmes dans laquelle il faut souffrir de mille maux pour espérer une place dans un paradis dont personne n'est jamais revenu, pour dire ce qu'il en était vraiment. C'est ce qu'on appelle le dolorisme, qui est si prégnant dans le christianisme. Le Vatican est une agence de voyage irréel et imaginaire où l'on ne rembourse jamais les clients déçus, mais qui ne peuvent pas se plaindre. Il faut souffrir jusqu'au bout, car la souffrance est rédemptrice du malheur des hommes et des femmes depuis le péché originel commis par Adam et Ève. Et leurs enfants doivent en souffrir et payer le prix par le malheur et la souffrance ad vitam aeternam. Nul n'a le droit de ne pas souffrir ou de vouloir abréger ses souffrances. Dieu est tout, Dieu peut tout, et il est seul à décider de votre passé, de votre présent et de votre avenir, même au-delà de la mort. Le Vatican devra pourtant s'y résoudre. Le choix de décider soi-même de sa fin de vie est un droit démocratique qui est en train d'être conquis pour faire respecter la liberté de conscience de chacun et de tous. Et ce n'est pas parce qu'au latran, on ignore et on bafoue impunément les droits de l'homme et du citoyen que nous allons accepter ce diktat dans le pays de la Révolution française. La laïcité institutionnelle de l'État et de l'école publique offre un autre avenir et la libre pensée a œuvré inlassablement pour sa mise en œuvre, celui de décider librement de sa vie et surtout de sa fin de vie. L'Église n'a à offrir que malheur, souffrance dans l'obéissance. Telle est leur religion que le pape vient glorifier lors de sa visite en France. Et il ne manquera pas d'agenouillistes pour applaudir cette religion de la mort qui est bâtie sur l'assassinat du Fils par le Père, puisqu'il peut tout et décide de tout. Telle est leur religion que le pape vient glorifier lors de sa visite en France. Ainsi, le président de la République, bafouant la séparation des Églises et de l'État, et n'ayant aucun mandat du peuple pour cela, a-t-il déclaré, citation, « Nous nous réjouissons que sa sainteté, le pape Léon XIV, ait confirmé son voyage en France. Cette visite, en septembre prochain, sera un honneur pour notre pays et une joie pour les catholiques et un grand moment d'espérance pour tous. » Fin de citation. On comprend qu'Emmanuel Macron, président de la République, encore hélas aujourd'hui, applaudisse à cela. Lui qui a littéralement détruit ce pays en le vouant à la misère. Plus de 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. À la guerre, plus de 413 milliards d'euros pour détruire des pays et tuer des gens en nombre. Et organiser une répression jamais vue contre la jeunesse, les immigrés et les migrants, en offrant un véritable permis de tuer à ces forces de répression. C'est bien le vice au bras du crime. La septième question que nous poserons aux candidats au présidentiel est « Ferez-vous compléter la loi du 15 juillet 2026 en faisant de l'aide médicale à mourir une option pleinement équivalente au suicide assisté et en l'enrichissant de dispositions prévoyant la possibilité pour les personnes de rédiger des directives anticipées relatives à l'une ou l'autre de ces deux modalités, comment envisagez-vous de faire strictement respecter de telles directives ? Puisque, et fin de citation donc de cette septième question que la FNLP posera au candidat au présidentiel. Puisque depuis le 15 juillet, il existe une loi qu'il faudra parfaire, autorisant le suicide assisté et l'aide médicale à mourir pour une fin de vie digne. Nul ne peut douter qu'une fois la loi votée le 15 juillet 2026, une âpre lutte va se dérouler. Soit pour aller plus loin dans le respect de la liberté de conscience de chaque individu, c'est le combat de la libre pensée, soit pour vider de son contenu réel la loi, c'est le combat de l'Église, des réactionnaires en tout genre et de l'extrême droite. Une porte s'est entrouverte. Nous pousserons avec nos amis de l'AMDMD pour l'ouvrir encore plus grande. L'Église et la réaction pousseront pour la refermer. Et entre les deux, l'extrême centre se battra pour que la porte reste à peine entrouverte et que les choses restent en l'état. Mais c'est un combat vain. Soit les choses avancent, soit elles reculent. Le juste milieu du « en même temps » qui voudrait geler les choses est perdu d'avance. La loi de la lutte des classes va opérer pleinement sur ce terrain. Voilà. Et donc ça, c'est le communiqué hebdomadaire de la Fédération nationale de la libre-pensée en relation avec la venue du pape en France, donc du 26 au 28 septembre prochain. Donc on sait maintenant tout proche. Et dans cette situation, je vous propose de porter à votre connaissance une déclaration de l'association Move Enfants, qui est rapportée par le Huffington Post du 2 septembre dernier, et qui dépose, cette association Move Enfants, un recours pour faire annuler la messe géante du pape Léon XIV prévue à Paris. Je vous lis ce communiqué, qui est bien évidemment de la seule responsabilité de son auteur, mais il me semble important de le porter à votre connaissance dans la situation actuelle. Voici ce que dit l'association Move Enfants. À l'occasion de sa visite en France, le souverain pontife est censé célébrer une messe sur les Champs-Élysées et sur la place de la Concorde devant des centaines de milliers de personnes. Un crachat au visage de tous ceux qui ont été agressés, abusés, violés dans l'Église. La messe géante du pape organisée le 26 septembre prochain à Paris est dans le viseur de l'association Move Enfants. A-t-elle fait savoir le mercredi 2 septembre au micro de France Info et dans les colonnes du Parisien ? Son président Arnaud Gallet dit avoir saisi le tribunal administratif pour demander l'annulation de l'événement qui doit se tenir sur les Champs-Élysées et la place de la Concorde à l'occasion de la visite de Léon XIV en France. Au cœur des critiques de Move Enfants, le bilan de l'Église en matière de pédocriminalité et d'abus. L'association qui lutte contre les violences aux enfants pointe du doigt de nombreux scandales qui ont ébranlé le catholicisme en France et à l'international. Il y a eu 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'Église, a dénoncé Arnaud Gallet sur France Info, s'appuyant sur les chiffres sortis en 2021 par la CIAZ, c'est-à-dire la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, pour la période qui va de 1950 à 2010. Au micro de la radio publique, le président de Move Enfants accuse le Vatican de n'avoir jamais rien fait pour les victimes et d'avoir même participé à couvrir ces crimes de masse. Au lieu de faire des courbettes, on devrait plutôt se préoccuper des victimes, a-t-il insisté dans Le Parisien, en appelant à respecter leur dignité. Une entorse au principe de la laïcité, selon l'association Move Enfants. La question des violences sexuelles ne sera pas esquivée par le pape au cours de sa visite, puisqu'un échange entre le souverain pontife et des victimes est prévu à Lourdes, au lendemain de la messe parisienne, rappelle le journal francilien. C'est très bien qu'il rencontre les victimes, je n'ai rien à dire contre cela, mais on en a un peu marre de la compassion, a réagi Arnaud Gallet dans Le Parisien, appelant à des actions et des politiques publiques pour lutter contre ce fléau. L'autre argument mis en avant par Move Enfants pour motiver son recours porte sur la question de la laïcité. Des lieux de prière, il en existe plein. Je ne vois pas pourquoi on aurait un espace public qui leur soit réservé, a plaidé le président de l'association au micro de France Info, s'indignant que, quand il s'agit des musulmans, certains jugent que des prières de rue, ce n'est pas possible. Si le tribunal administratif rejetait sa requête, l'association se dit prête à aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, ça me semblait intéressant de porter à votre connaissance cette information concernant les initiatives de l'association Move Enfants. Voilà. Alors, j'en viens maintenant à... je reprends le sujet sur Gaza à partir d'un autre aspect qui est produit par un journaliste carte blanche de Thierry Michel, nommer ou taire la guerre des mots sur Gaza. Et ça me semble intéressant parce que c'est une façon un petit peu différente de poser la question. Donc voilà ce que dit Thierry Michel, réflexion sur une partialité structurelle dans les médias occidentaux. La plupart des médias occidentaux racontent Gaza par un vocabulaire asymétrique. Otage d'un côté, terroriste de l'autre. Droit à se défendre pour Israël, silence sur la résistance palestinienne. Cette grammaire hiérarchise les vies, occulte le droit international et perpétue un imaginaire colonial. Le journaliste devrait l'interroger et non le relayer. Dans la plupart des grands médias occidentaux, la guerre à Gaza est racontée au prisme d'un vocabulaire asymétrique qui trie les morts, hiérarchise les souffrances et distribue la compassion à sens souvent unique. Comme je le disais juste avant, otage d'un côté, simple détenu ou terroriste de l'autre, droit à se défendre pour l'État qui bombarde, silence sur le droit à résister d'un peuple soumis depuis des décennies à l'occupation et à la colonisation. Dans la plupart des rédactions occidentales, Gaza et Israël ne se racontent pas seulement avec des faits, mais avec des mots qui tracent une ligne de front invisible. Cette ligne ne se voit pas dans les cartes des journaux télévisés, mais dans les adjectifs, les silences, les hiérarchies et les omissions. Elle façonne jour après jour une grammaire du conflit où certains morts ont un prénom, un visage, une biographie et d'autres restent des chiffres, des ombres, des dommages collatéraux. Cette réflexion met en lumière comment lexique, dépêche d'agence, pression politique et autocensure fabriquent un récit tronqué qui occulte le droit international, invisibilise les crimes de l'armée et des colons israéliens et marginalise jusqu'au mot même utilisé par les victimes palestiniennes. Derrière cette partialité souvent inconsciente, c'est un imaginaire colonial persistant qui continue d'assigner plus ou moins de valeur aux vies humaines et dont le journaliste devrait être le contradicteur et non le relais. Le pouvoir des mots, le terrorisme, un terme à sens unique. En Occident, la plupart des médias généralistes ont un réflexe lexical bien rodé. Attentat terroriste pour désigner les attaques du Hamas ou d'autres groupes armés palestiniens, organisation terroriste pour qualifier ses acteurs et en mémoire, riposte, opération militaire, frappe ciblée pour parler des actions d'Israël. Le mot terrorisme, qui devrait désigner la violence intentionnelle contre des civils pour des fins politiques, est ainsi réservé de fait à un seul des protagonistes. Quand des commandos palestiniens franchissent la barrière de Gaza et massacrent des civils, la condamnation est totale. Horreur, barbarie, fanatisme, sauvagerie. Quand en retour, des bombardements méthodiquement détruisent des quartiers entiers, anéantissent des familles, rasent des hôpitaux, visent sciemment des organismes internationaux présents sur place, coupent l'eau, l'électricité, les boulangeries, les médias, parlent plus volontiers de frappe, de ciblage, parfois d'erreur, voire de bavure. Le langage ici amortit la violence au lieu de la nommer. Droit à se défendre, droit à résister, le grand silence des médias sur Gaza. Le même déséquilibre se lit dans l'usage du droit à se défendre. Formule omniprésente pour Israël, quasiment jamais doublée d'un droit à résister pour un peuple soumis depuis des décennies à une occupation militaire, à une colonisation continue et à un blocus qui enferme 2 millions de personnes sur un territoire exigu. Le droit international, qui reconnaît le droit à la résistance à l'occupation, disparaît derrière la mise en scène permanente de la sécurité israélienne comme seule sécurité légitime. Cette asymétrie n'est pas toujours le produit d'un complot, mais d'un habitus, celui de nombreuses rédactions socialisées depuis des années à considérer l'État israélien comme « nous », un État occidental, moderne, technologiquement avancé, et les Palestiniens comme « eux », indistincts, potentiellement menaçants, souvent réduits à sa fraction armée. Le lexique suit ce clivage mental. Otage contre détenu, l'aveuglement organisé des rédactions occidentales. Rien n'illustre mieux ce double standard que la mise en scène des otages israéliens et l'effacement des prisonniers palestiniens. Les premiers ont un visage, une histoire, une famille qui témoigne, pleure, se souvient, interpelle les gouvernements. On compte leurs jours de captivité, on s'émeut de chaque vidéo, de chaque preuve de vie, de chaque libération, de chaque corps restitué. L'émotion est légitime, nécessaire, universelle. En face, des milliers de Palestiniens enfermés depuis des années dans les prisons israéliennes, souvent sans charge, sans procès, sous le régime opaque de la détention administrative, n'ont droit qu'à un statut administratif, détenus, prisonniers, au mieux prisonniers de sécurité, Ils ne sont presque jamais désignés comme des otages, alors même que leur captivité s'inscrit, elle aussi, dans une logique de pression politique sur une population entière. On sait parfois qu'ils sont plusieurs milliers, mais leurs noms, leurs âges, leurs états de santé et leurs familles restent le plus souvent hors champ. Les morts sans visage, comment les médias déshumanisent la Palestine. La dissymétrie se prolonge jusqu'aux morts. Les médias ont, à raison, longuement raconté la restitution des corps d'otages israéliens à leurs familles, l'attente interminable, l'identification, les funérailles, la douleur impossible à penser. Mais dans le même temps, des centaines de corps palestiniens détenus depuis des années par Israël, 735 dans les cimetières des numéros, près de 1500 dans l'installation militaire de Sde Taïman, sont refusés aux familles. L'interdit de deuil, le refus de restituer un corps, est une violence extrême et une technique de domination bien connue dans l'histoire des guerres. Pourtant, cette question n'occupe qu'une place marginale, voire inexistante dans les éditions spéciales et les dossiers de fond. Il y a ici une économie morale sélective. La souffrance israélienne est individualisée, humanisée, dramatisée. La souffrance palestinienne est collectivisée, anonymisée, rendue abstraite. La première rappelle des mots d'ordre politique, libérer les otages. La seconde se dissout dans les statistiques et ne produit que des lamentations sans conséquence. Ce déséquilibre n'est pas un simple biais, il structure le cadre mental dans lequel les opinions publiques occidentales jugent ce conflit. Quand les agences fournissent la grille de lecture. Au cœur de cette fabrique du sens se trouvent les grandes agences de presse internationales qui alimentent en continu journaux, radios, télévisions et sites d'information. Dans les rédactions surchargées, sous-dotées en correspondants, les dépêches deviennent le squelette des articles et des lancements de journaux télévisés, parfois recopiés, quasiment tels quels, avec quelques ajouts cosmétiques. À cette mécanique s'ajoute une dépendance sans précédent. Depuis que le gouvernement israélien interdit de fait l'accès de Gaza aux médias internationaux, les rédactions occidentales sont privées de ce qui faisait le cœur même du reportage de guerre depuis la Crimée au milieu du XIXe siècle, la possibilité d'envoyer leurs propres journalistes sur le front, de voir, de vérifier, de raconter par eux-mêmes. Contraints de travailler à distance, les journaux, radio et télévision s'en remettent quasi intégralement au flux standardisé de ces grandes agences et à quelques chaînes disposant d'équipes palestiniennes sur place, ce qui concentre la production d'images et de récits entre très peu de mains. Cette centralisation drastique de la parole sur Gaza rend d'autant plus aisées les manœuvres de pression, de filtrage et d'orientation des contenus. Ces agences ont leur guide de style et leurs lignes rouges implicites. Elles ont adopté au fil des années une langue prudente, polissée, où certains mots sont souvent, mais heureusement pas toujours, dans certains journaux indépendants jugés inappropriés. Militants, colonisation, apartheid, épuration ethnique, suprématisme, génocide, et d'autres neutres, conflits, tensions, affrontements, opérations. Cette prudence ne peut se comprendre car elle se traduit dans le cas d'Israël-Palestine par une reproduction quasi automatique de la terminologie officielle israélienne, beaucoup plus que de celle des Palestiniens, des ONG de défense des droits ou même des organes de l'ONU. Génocide, apartheid, nettoyage ethnique, les mots trop souvent bannis de nombreuses rédactions occidentales. Ainsi, les colonies israéliennes en Cisjordanie, illégales en droit international et condamnées de manière répétée par les plus hautes instances internationales, sont longtemps restées de simples implantations. Le régime d'apartheid, pourtant documenté par plusieurs organisations de référence, est relégué à la rubrique « controverse », les expressions « nettoyage ethnique » ou « épuration ethnique » employées par des universitaires, des historiens, des juristes, sont souvent traitées comme « excessives », presque indécente, même lorsqu'elle repose sur une littérature scientifique abondante. Cette langue filtrée descend ensuite dans les rédactions nationales. Là, sous la pression des bouclages, des contraintes de format, du poids des rubriques, faits divers, nombre de journalistes reprennent souvent sans distance critique les éléments de langage dominant. La partialité n'est pas toujours le fruit d'un choix conscient, mais d'un alignement progressif sur un centre de gravité discursif forgé ailleurs. Pression, peur et autocensure. À ce biais structurel s'ajoutent des pressions plus directes. Les journalistes qui, en France, en Belgique, au Royaume-Uni ou ailleurs, tentent de parler explicitement d'occupation, d'apartheid ou de génocide, savent qu'ils ou elles s'exposent à des campagnes de dénonciation, d'insultes, de harcèlement coordonnés sur les réseaux sociaux, souvent impulsés par des groupes de lobbying bien organisés. Les rédactions reçoivent des lettres d'ambassade, des menaces de retrait de publicité, des accusations d'antisémitisme brandies comme armes de dissuasion. Dans un univers médiatique de plus en plus précaire, où les pigistes vivent à flux tendu, où les CDI eux-mêmes se sentent fragilisés par les plans sociaux et les rachats, la tentation est grande de ne pas faire trop de vagues. L'autocensure est rarement avouée, mais souvent pratiquée. On édulcore un titre, on renonce à un mot jugé trop brutal, on renvoie un sujet à plus tard, on choisit un angle humain qui évite les termes juridiques qui fâchent. À la fin, la somme de ces renoncements individuels produit un paysage éditorial où la version officielle de certains États s'impose sans affrontement réel. Gaza, cimetière des reporters, quand témoigner condamne à la peine de mort. Les journalistes palestiniens ont, eux, payé souvent de leur vie, de leurs blessures ou de leur emprisonnement le fait même de documenter ce qui se passe à Gaza ou en Cisjordanie. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme évoque 289 journalistes assassinés par l'armée israélienne à Gaza entre octobre 2023 et la mi-décembre 2025. Une mortalité sans équivalent dans l'histoire du reportage de guerre moderne. L'International News Safety Institute et des chercheurs cités par l'ONU parlent de Gaza comme du conflit le plus meurtrier de l'histoire moderne pour les journalistes, en dépassant les bilans cumulés des grandes guerres du XXe siècle pour cette catégorie professionnelle. Quant à la parole des survivants, quand elle arrive jusque dans les studios européens, elle est encadrée, questionnée, soupçonnée, souvent relativisée par la présence symétrique d'un porte-parole israélien rompu aux techniques de communication. Là encore, l'égalité d'antenne est un trompe-l'œil. Tous les discours ne pèsent pas le même poids symbolique. Effacement du droit international, prudence confortable et refus de nommer le génocide. Un des angles morts les plus frappants du traitement médiatique occidental tient à la marginalisation du droit international. Lorsque la Cour internationale de justice, organe judiciaire principal de l'ONU, juge plausible l'accusation des génocides à Gaza dans son ordonnance du 26 janvier 2024 et ordonne à Israël de prévenir tout acte génocidaire, de sanctionner l'incitation à la haine et d'assurer l'accès de l'aide humanitaire, beaucoup de médias réduisent l'événement à une brève technique. La Cour examine une plainte pour génocide. L'affaire est en cours. Israël rejette les accusations. La portée historique du geste, une mise sous surveillance du comportement d'un État allié de l'Occident, est à peine explorée. De la même manière, quand la commission d'enquête internationale indépendante constituée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies établit qu'Israël commet un génocide à Gaza, et quand des organisations comme Amnesty International ou Human Rights Watch, après des enquêtes approfondies et argumentées et basées sur des faits précis, concluent qu'Israël pratique un régime d'apartheid, l'information est souvent enfermée dans des encadrés, renvoyée au statut d'accusation contestée. Et lorsque des ONG israéliennes elles-mêmes, comme B'Tselem ou Physicians for Human Rights Israel, parlent de génocide en cours, le malaise est palpable. Comment continuer à opposer le regard extérieur supposé anti-israélien aux réalités du terrain quand des acteurs israéliens enracinés dans la société brisent le consensus et assument ces mots? Ce qui amène certains journalistes occidentaux à s'exprimer alors avec prudence. Ils affirment que le terme « génocide » est controversé, qu'il appartient aux juristes d'en décider, qu'il est encore trop tôt pour trancher. Mais la jurisprudence internationale montre que l'intervention génocidaire peut se lire dans des politiques d'anéantissement de populations civiles, de destruction de leurs conditions d'existence, de ciblage d'infrastructures vitales comme les systèmes de santé, l'eau, la nourriture. Refuser d'entrer dans ce débat, c'est laisser au seul État accusé et à ses alliés le pouvoir de dire le droit, ou plutôt ce qu'il considère comme tel. L'angle mort colonial, 8 décennies de continuité. Ce refus de nommer s'explique aussi par une cécité plus profonde. La difficulté pour les sociétés occidentales à se penser elles-mêmes comme héritières de structures coloniales. Or, la Palestine, depuis les expulsions massives de 1948 jusqu'aux réalités contemporaines de Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de Gaza, est un dossier colonial. On parle ici de spoliation de terres, de déplacements forcés, de systèmes juridiques séparés, de routes réservées, de régimes d'autorisation et de checkpoints, de hiérarchies explicites entre citoyens juifs, israéliens et palestiniens. Ces réalités recoupe des catégories d'épuration ethnique, de ségrégation, d'apartheid, forgées dans d'autres contextes. Pourtant, le récit médiatique dominant préfère encore l'image d'un conflit intercommunautaire ou d'une guerre de religion qui renvoie dos à dos les protagonistes et efface les rapports de domination structurelle. Parler d'État colonial, d'État suprémaciste, d'épuration ethnique est, c'est pour beaucoup de rédactions, franchir une barrière mentale. Non parce que ces termes seraient impropres, mais parce qu'ils ouvrent un autre champ de réflexion, celui des responsabilités occidentales, des continuités historiques entre empires d'hier et alliances d'aujourd'hui, des complicités actives ou passives, dans un système qui nie la pleine humanité d'un peuple. Alors on préfère rester au niveau du cycle de violence, qui ne demande ni mémoire ni examen de conscience. Révolution des mots, des regards des sources d'un journalisme indépendant, des formatages. Faut-il pour autant conclure que tous les journalistes occidentaux seraient seraient des propagandistes conscients? Non, bien sûr. Et ils sont nombreux à s'y refuser, même si la réalité est plus tragique et plus banale. Un système d'information traversé par des pressions permanentes, des rapports de forces économiques, politiques, idéologiques, qui fabriquent des automatismes de langage et des angles morts. Ce système ne s'effondrera pas de lui-même. Il devra être contesté, critiqué, réformé de l'intérieur et de l'extérieur. Cela suppose au moins trois ruptures. D'abord, une rupture lexicale. Appeler les choses par leur nom. Citer les catégories du droit international. Ne plus censurer les mots qui dérangent parce qu'ils rappellent d'autres passés coloniaux. Ensuite, une égalisation de l'humanité. Donner autant d'espace, de visages, de récits aux prisonniers palestiniens, aux corps retenus, aux familles privées de sépultures, qu'aux otages israéliens et à leurs proches. Enfin, une décolonisation des sources. Faire une place centrale aux journalistes palestiniens, aux ONG locales et internationales qui sont sur le terrain, aux chercheurs du Sud global, aux voix israéliennes dissidentes pour contrecarrer les discours des porte-paroles officielles et des diplomates. Au bout du compte, ce qui se joue à Gaza et en Cisjordanie dépasse largement ce territoire. C'est notre propre humanité que les bombes et les silences mettent à l'épreuve. Donc, fin de cet article donc, de Thierry Michel sur l'utilisation des mots et le sens de l'utilisation et du choix de certains termes neutres qui ne veulent plus rien dire. Voilà. Alors, je vais en rester là pour cette chronique puisque nous arrivons à son terme. Et je voudrais donner une information concernant donc, la chronique de la semaine prochaine. Ne pouvant être présent dans les studios de Radio Libre en Périgord, je vous propose une rediffusion de l'interview de Jean-Marie Delbos, qui était venu au micro de Radio Libre en Périgord dans le cadre de notre chronique pour une interview autour de son livre « Enfant de Bétharram » et qui a été donc personnellement profondément victime des malfaisants de Bétharram et que j'avais interviewé, c'était le 18 mai dernier. Et donc, je vous propose de réécouter donc, cette chronique. Il y aura également donc, dans cette émission une communication sur ce qui aura été décidé concernant la journée du 20 septembre sur la marche contre la loi permis de tuer. L'organisation est prévue dans le cadre d'une réunion qui se tient ce soir à Périgueux entre organisations. Et bien évidemment, je n'ai pas encore les détails de ce qui peut être décidé dans cette petite réunion. Donc, ce sera communiqué la semaine prochaine dans le cadre donc, de notre émission, de notre chronique du groupe Fred Zeller. Donc, je vous propose d'en rester là pour cette chronique. Je remercie Antoine pour avoir assuré parfaitement, comme toujours, la technique pour que vous puissiez tous écouter dans les meilleures conditions cette chronique. Et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine à travers cette émission rediffusée, l'interview de Jean-Marie Delbos autour de son livre donc « Mon enfance à Bétharram ». Et je vous retrouverai directement dans 15 jours pour une autre chronique du groupe Fred Zeller.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord.
Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30.